Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Vous écoutez La Grande Séance, l'émission 100% cinéma en live sur Séances Radio.
Bonsoir, bienvenue dans cette grande séance qui, comme vous le savez, a lieu tous les premiers mercredis du mois, mais aussi à la moitié du mois. Nous sommes mi-juin, mercredi 15 juin, jour de sortie des films, et vous allez voir, on va beaucoup parler cinéma, car on va parler de la fête du cinéma avec trois jeunes comédiens qui sont déjà des épées dans leur domaine. Moi, à chaque fois que je pense à eux, j'ai l'impression qu'ils ont 40 ans, non, ils ont que 30 ans, mais ils ont déjà une super début de carrière derrière eux. Nous aurons deux blogueurs cette fois. Bonjour Barbara Goberts, bienvenue dans l'émission, c'est une première pour vous.
Et oui, je suis ravie d'être là.
Merci. Et donc votre site, Barbara fait son cinéma.
Tout voilà. À fait.
Et Alexis, qui lui est un habitué, Alexis Guillaumet, filmosphère.com et Cloneweb. Bonjour Alexis.
Bonjour Bruno.
Donc, nos invités vont être, car il y en a un sur les trois qui est arrivé, Arthur Dupont. Bonjour Arthur.
Bonjour Bruno.
Tout à l'heure, Arthur Dupont, dont l'actualité est Outsider de Christophe Baratier, qui sort la semaine prochaine, on va largement en parler. Parce qu'on aura aussi la chance d'avoir la belle Sabrina Ouazani qui joue dans Outsider,
ouais.
Qui joue votre compagne d'un moment, car votre ouais. vie est assez agitée, puisque vous jouez le jeune Jérôme Kerviel. Et puis Grégoire Le Prince Ringuet, qui lui aussi a une actualité, puisqu'il fait son premier film en tant que réalisateur, La Forêt de Quinconce. Ils vont nous rejoindre, ils sont un peu dans les encombrements, ils vont nous rejoindre dans un instant, au moment justement de poser des questions aux invités. On parlera évidemment longuement de la fête du cinéma. On va faire les tops et les flops. Et puis, comme d'habitude, à la fin de l'émission, il y aura le fameux blind test, le fameux quiz dans lequel certains excellent. On se retrouve dans un instant pour faire les tops et les flops.
La grande séance, le box-office.
Alors, le box-office, il n'est pas facile parce qu'on ne peut pas dire que le marché du cinéma soit très florissant, mais quand même. Retour chez ma mère d'Éric Lavenne. Je regarde Arthur Dupont parce qu'il a un regard interrogateur. Le box-office, on le fait à peu près tous les 15 jours, donc c'est vraiment les films qui ont les mieux démarré dans les 15 derniers jours. Mm-hmm. Retour chez ma mère était à dimanche soir à 965 890 entrées, donc à l'heure où je vous parle, il a dépassé le million, ce qui est quand même un bon chiffre pour une comédie. Par contre, dans les flops, on a sorti il y a déjà 2-3 semaines L'origine de la violence d'Elie Chouraki, qui n'est qu'à 61 000 entrées, 274. Voilà, ça c'est un flop. Côté américain, eh ben en fait, j'ai pas trouvé de top. Et c'est comme ça. Les derniers tops remontent à plusieurs semaines. Mais je vais quand même faire un effort et je vais mettre Café Society de Woody Allen, qui était à Cannes et qui est quand même à 850 410 entrées. Et il vient de faire son entrée. Bonjour Grégoire Le Prince Ringuet.
Bonsoir, bonjour à tous.
Voilà, on vous a présenté en votre absence. Et puis dans les flops américains, c'est un film américain, même si Nicolas Winding Refn est danois, The Neon Demon, qui était à Cannes et qui, pour ses 5 premiers jours, n'a fait que 54 538 entrées. Il faut dire que nous, les critiques, même les plus bienveillants comme moi, l'ont un peu descendu. Voilà, parce que là, il est arrivé à son point de son stade de compétence, là, de non-compétence, Nicolas Winding Refn, pour le dire gentiment. On se retrouve dans un instant avec nos deux blogueurs.
La grande séance, l'actu cinéma des blogueurs.
Et on va être galant, Barbara Goberts, donc je vous ai souhaité la bienvenue. Vous allez nous parler d'un film qui sort aujourd'hui, je crois, Folle de joie, de Paolo Virzi, avec Valeria Boni-Tedeschi et Michaela Ramazzotti.
Exactement, et c'est un coup de cœur. Ce film était présenté à Cannes, je l'ai loupé à Cannes, il faut faire des choix. Mais je l'ai vu en séance de rattrapage à Paris et vraiment, ce fut un coup de cœur. Il est présenté comme étant le Thelma et Louise en hôpital psychiatrique. Alors c'est vrai qu'il y a quelques ressemblances, en tout cas cette même force, cette lutte pour la liberté de ces deux actrices qui sont superbes. Valeria Bruni-Tedeschi, vraiment, je l'ai trouvée remarquable. Elle est, voilà, très exubérante, mais vraiment tout en folie, mais je dis ça vraiment dans le bon sens du terme, et alors que l'autre actrice est plus dans la réserve, et justement donc le duo fonctionne parfaitement bien. C'est un film très fort qui montre une réalité, voilà, on voit de façon concrète la vie, voilà, en hôpital psychiatrique. Alors c'est pas forcément glamour, mais vraiment, et on rit également, donc c'est vraiment la force du film. On ne rit jamais des acteurs, bien sûr, mais des personnages, mais avec eux. Et c'est vraiment un coup de cœur, une folle envie de liberté. C'est vraiment réussi.
Bah vous donnez envie de voir. J'avais entendu de bons échos sur le film. Et puis, vous avez assisté à une masterclass de Catherine Froh.
Tout à fait. Catherine Froh qui vraiment sait partager son...
Pourtant, elle est
timide dans la vie. Ah, mais non, elle partage son enthousiasme et sa joie de vivre. Et là, elle était peut-être, voilà, en tout cas, je l'ai trouvée au top. Et vraiment dans le partage. Donc, elle a c'était une rencontre, voilà, un échange. Et donc, elle a vraiment partagé avec nous son amour du métier, comme elle l'appelle, elle voit ça, voilà, c'est son métier. Elle a une passion, voilà, on a beaucoup évoqué la mise en scène, elle a une passion pour la bonne mise en scène, ça va de soi.
Ça veut dire qu'elle veut passer à la réalisation un jour ?
Eh ben, je me suis demandé, elle l'a pas dit clairement, mais pourquoi pas ? On a essayé de creuser un petit peu ses projets à venir, pourquoi pas ? Parce que vraiment, elle insistait sur la mise en scène. Sinon, elle est revenue bien sûr sur les rôles, voilà, qui l'ont rendu populaire. On s'est rendu compte que clairement, c'était une actrice vraiment une comédienne très appréciée, populaire là aussi dans le bon sens du terme. Et puis elle est revenue sur son rôle dans Marguerite, justement, son approche du rôle.
Elle avait joué dans Les Saveurs du Palais.
Mmh. Tout à fait.
Avec Arthur Dupont qui jouait son jeune pâtissier.
Je la trouve superbe, et vraiment voilà, elle est revenue également sans faux semblant sur sa brouille avec Pascal Thomas. C'est un sujet un peu délecte un peu
pas.
Les médias,
ouais.
Si, voilà, et elle est revenue sans faux semblant. Il y a clairement une brouille entre eux, mais elle respecte également son travail de mise en scène. C'était vraiment, voilà, une rencontre très intéressante.
Alors,
passionnante.
J'en profite pour dire un mot de Marguerite, parce que j'ai vu la version anglaise, on va dire,
Festival
de Cabourg, avec Meryl Streep et Hugh Grant, qui s'appelle Florence Foster Jenkins, du nom de cette cantatrice des années 40-50. Et alors, en fait, la bonne nouvelle, je ne dis pas ça méchamment, mais que je trouve que le Giannoli est plus réussi. Voilà. Parce qu'il est plus personnel, le personnage justement de Catherine Froh est plus écorché vif. Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est que Hugh Grant, il a vieilli comme nous.
Et là,
ah non, on a le droit de le dire. Non, mais c'est pas méchant. On le voyait même à 50 ans jouer toujours les jeunes premiers. Bah là, au début du film, j'ai cru qu'il avait été maquillé vieux et qu'on allait avoir un retour en arrière. Bah non. Non, c'était
d'accord.
Normal.
Mais en tout cas, il a un rôle brillant.
Non, mais il est
je trouve que c'est peut-être
vachement bien.
Je trouve que c'est
super.
Peut-être son
plus beau rôle, parce qu'il est super. Il joue le rôle d'André Marcondes, il joue le rôle du mari de Marguerite, de Florence Foster Jenkins. Il est extrêmement émouvant. Il a un très beau rôle, mais il fait son âge maintenant. Voilà, ça y est. Il est passé du jeune premier au vieux beau. Non, c'est méchant. Alexis, à vous de jouer. Vous vouliez nous parler de la sortie du DVD de Steve Jobs, de Danny Boyle, deuxième film.
Voilà, le
meilleur.
Le meilleur.
Le meilleur, il est excellent.
Le 21 juin en DVD Blu-ray, et donc je voulais en parler parce que ça a été un échec cuisant au box-office, autant international que français.
Moi, j'avais trouvé ça très très bon.
Bah, en France, ça n'a fait que 163 000 entrées.
Ouais, ouais.
Et
un flop.
Voilà, c'est un vrai flop, parce que déjà il avait fait un échec aux États-Unis, il était un gros compétiteur pour les Oscars, échec en salle aux États-Unis, donc quand il est sorti en France en février, on l'a un petit peu lâché comme ça dans les salles. Donc justement, c'est pas du tout un biopic plan-plan comme on avait déjà eu avec Ashton Kutcher. C'est Steve Jobs, justement, c'est vraiment une pièce de théâtre, c'est divisé en trois actes, dont chaque scène, en fait, c'est celle de trois lancements de produits phares pensés par Steve Jobs. Et c'est très intéressant parce que le film s'ouvre avec l'histoire d'un homme qui veut révolutionner le monde avec un ordinateur qui ne fonctionne pas. Le film s'ouvre comme ça, et c'est typique justement du scénariste Aaron Sorkin, qu'on connaît notamment pour le scénario de Social Network de David Fincher et la série The Newsroom, qui est très rentre-dedans pour mettre les États-Unis face à leur propre contradiction. Et donc c'est un film qu'on peut croire très bavard, mais qui va très très vite, qui offre vraiment des performances aux acteurs.
Et qui fonctionne par moment de sa vie, c'est pas uniquement biographique.
Voilà, justement.
C'est pas classique, quoi.
C'est vraiment.
C'est impressionniste.
C'est vraiment trois moments. Il y a 30 minutes, 40 minutes à chaque fois. C'est trois blocs, vraiment, comme trois actes dans une pièce de théâtre. Et donc, on s'attache peut-être plus au personnage secondaire, puisque le personnage de Steve Jobs est assez.
Bah, en même temps, c'est Michael Fassbender, et il est à la fois brillant et fascinant. On comprend pourquoi les gens étaient fascinés par lui. Il est odieux.
Voilà, et en fait, ce personnage de Fassbender, justement, est dans l'incarnation, il n'est pas justement dans la transformation physique et tout ça, comme on pourrait avoir dans les biopics classiques. Et donc, Fassbender, on a Kate Winslet aussi et Seth Rogen qui ont une de leurs meilleures performances à l'écran. C'est Danny Boyle qui réalise, qu'on connaît pour 28 jours plus tard, c'est l'homme millionnaire, mais pour le coup, il s'est calmé un peu dans sa mise en scène, il réfléchit beaucoup plus ses plans puisque c'est uniquement ça se joue sur des dialogues, il n'y a pas vraiment d'action, donc c'est super bien pensé et c'est super malin au niveau des transitions. Et pareil, au niveau de la bande originale de Daniel Pemberton, c'est une des meilleures BO que j'ai entendues cette année, donc Steve Jobs, très bonne adresse.
Très bon. Et bien, dans un instant, on se retrouve avec nos invités.
La grande séance, l'interview.
Alors, Sabrina Ouazani est en retard, c'est une femme, c'est normal. Non, je rigole, je déconne. Elle arrive, non, elle va arriver. Mais nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir deux jeunes comédiens, j'ai envie de dire, Grégoire Le Prince Ringard, Arthur Dupont dans ce studio. J'étais ravi de vous avoir tous les trois, puisque Sabrina va arriver. Et alors, ce qui m'a surpris, quand j'ai revu votre carrière, j'étais sur Wikipédia, même si de temps en temps il y a des erreurs, et je vous connais depuis que vous êtes presque tout petit, c'est que je pensais que vous étiez plus vieux tellement vous avez déjà travaillé. Mais vous avez commencé jeune, tous les deux. Vous, si Wikipédia se trompe pas, vous étiez à Bobino, très jeune.
Ouais, à 10 ans.
À 10 ans.
Dans les salles gosses.
Et vous, à 11 ans, vous étiez dirigé par Chéreau, dans Wozzeck, dans La Flûte Enchantée. C'est incroyable. Ouais. Tout jeune, vous êtes tombé dedans quand vous étiez tout petit. Alors, on va en parler parce qu'on parlera du métier dans le débat qui a lieu tout à l'heure. On parlera du métier de comédien. Et encore une fois, on a l'impression que vous avez une carrière de quadragénaire, mais vous avez eu la chance et le courage et l'opportunité de travailler. Mais on va profiter là de cette partie invitée pour parler de votre actualité. Alors, on va commencer par vous, Grégoire, puisque Sabrina va peut-être arriver. On vous connaît, hein, on vous a découvert aux côtés de Gaspard Huliel dans les Égarés. Depuis, vous avez fait une super carrière. On vous a vu dans deux films de Christophe Honoré, Chanson d'amour à la belle personne, dans trois films de Guédiguian. Vous avez vu récemment dans Une histoire de fou, vous aviez un rôle très important. Et puis, vous avez décidé de passer à la réalisation avec un film qui s'appelle La forêt de Quinconce et qui sort mercredi prochain. Ouais. Juste avant, que j'ai pas vu, parce que je devais aller le voir à 13h, mais j'étais en direct sur la radio, donc voilà. Et juste pour la fête du cinéma, justement. Alors, c'est venu d'où, de loin, cette envie de passer à la Réal?
De tout de suite, en fait. dès que j'ai mis un pied sur un plateau de cinéma.
C'est vrai?
Le premier film que j'ai fait, c'était donc Les Égarés, c'était un film d'André Téchiné.
Ouais.
Et dès que je l'ai vu faire avec les acteurs, avec la caméra et à diriger l'équipe, ça m'a fasciné. Et j'ai très vite, parce que j'étais encore très jeune à l'époque, mais j'avais très vite l'intuition que c'est ça que je voulais faire. Ouais.
Ah, c'est incroyable.
Être à la place de celui qui dit action, tout ça, très vite, ça m'a beaucoup attiré. Ouais.
Mais vous avez eu la patience d'attendre?
J'ai eu la patience d'attendre, ouais, parce qu'il faut une histoire pour passer à la réalisation, donc il faut écrire.
Et avec cette idée en tête, vous avez à chaque fois regardé sur les plateaux comment les différents et les grands metteurs en scène qui vous ont dirigé, je pense à Guédiguian, je pense donc à Christophe Honoré aussi et aux autres, vous les avez regardés travailler?
Bah oui, je les ai regardés travailler et puis c'est vraiment en les regardant travailler que j'ai eu envie de faire comme eux, c'est-à-dire la fascination à un moment donné d'être en tant que metteur en scène. D'avoir beaucoup de pouvoir, mais pas de manière perverse, enfin de pouvoir faire beaucoup de choses, c'est-à-dire de pouvoir faire un plan, de décider qu'on va faire un autre plan, de décider de ce que vont faire les acteurs, de ce qu'ils vont dire, etc. Cette création-là, qui est totale quand on est réalisateur, me faisait très envie et c'est en regardant ces metteurs en scène-là que j'ai appris à faire beaucoup de choses, notamment Tavernier aussi, avec qui j'ai travaillé.
La princesse de Montpensier.
Voilà, exactement, et qui lui est assez impressionnant parce qu'il gère beaucoup, beaucoup de monde et on a l'impression que tout le monde entend sa voix à l'intérieur de son cerveau. Quoi. C'est tout le monde va dans son sens et c'est presque magique avec lui.
Mais le fait d'avoir cette idée en tête, vous viviez quand même bien votre métier de comédien ou vous étiez un comédien frustré de ne pas être metteur en scène?
Ça dépend avec qui.
Ça, c'est intéressant. Allez, on peut y aller.
Globalement, je vivais très bien d'être comédien, surtout quand c'est dans des beaux films, enfin quand on est fier de faire partie d'un projet. Moi, les Chansons d'amour, c'est un film que j'ai vraiment adoré tourner, qui était comme une parenthèse enchantée du début jusqu'à la fin. Et finalement, c'est vrai que j'avais quand même toujours en tête l'idée de me dire si c'était moi à sa place, je ne ferais peut-être pas exactement pareil.
C'est drôle. Alors, La forêt de Quinconce, c'est l'histoire de Paul.
Ouais.
qui est amoureux d'Ondine.
Ouais.
Elle le quitte, elle est énervée contre lui, ouais. Et lui va essayer de séduire une fille qui s'appelle Camille, et ouais. Avec l'intention de la laisser tomber ensuite. Mais Camille va l'envoûter. Elle le veut pour elle toute seule. J'ai bien résumé.
Exactement.
C'est ça. Ouais,
c'est tout à fait ça. Exactement.
Et alors, l'originalité du film, et ça, il fallait y penser, ou c'était une envie profonde, c'est que c'est très littéraire, c'est très écrit, c'est presque. Ce sont des vers, ce sont des alexandrins.
Il y a des vers dans le film.
Il n'y a ouais. pas que des alexandrins, voilà. Mais il y en a.
Il n'y a pas que des vers, il y a des alexandrins, des octosyllabes aussi, mais il y a aussi de la prose, des scènes entre guillemets normales. Mais je voulais comme ça que ce soit pas systématique. Enfin, j'aime bien. Enfin, j'aime le texte. Je trouve que ça donne beaucoup de matière aux acteurs. Je trouve que quand ils ont du texte, ils peuvent s'exprimer dans toute la.
Vous aimez les films de Romer?
J'aime bien les films d'horreur, pas tous. Je trouve parfois qu'effectivement, ça me manque d'action. Mais dans mon film, je voulais à la fois qu'il y ait de l'action et que l'action passe par la parole, quoi. Que quand il y a une prise de parole, ce soit quelque chose de fort, quoi.
Et qu'est-ce que vous avez éprouvé donc pour cette première fois sur un plateau? Ça correspondait à vos attentes? Vous avez plutôt, jubilé, ouais. C'était bien, c'était agréable.
Ouais, c'était super. Ouais.
Et diriger d'autres comédiens.
Ouais, je vais pas vous mentir, ouais, c'était super bien. Ouais. Ouais. J'ai adoré faire ça. Ouais. Ouais. Bah oui, diriger d'autres acteurs, c'était bien. Alors moi, je joue dans le film moi-même aussi, donc je demandais aux autres acteurs de me diriger aussi. C'était un peu un travail comme ça collectif où je leur demandais souvent à la fin d'une prise bon, qu'est-ce que t'as pensé que ce que je fais, est-ce que tu penses que c'est bien, est-ce que tu penses que faut que je change un truc et tout. Donc du coup les acteurs étaient assez assez investis aussi et assez ça responsabilisait tout le monde, le fait de
vous aider, quoi.
Ouais. Ils nous aidaient, on s'aidait chacun. Moi je leur demandais, je leur disais aussi, ce qui fait qu'en fait il y avait comme ça une grande joie. En fait c'est un tournage très joyeux. Moi j'ai vraiment passé un très bon moment.
Alors quand on est comédien et qu'un film sort, on se sent moins quand même de responsabilité que le metteur en scène. Pour l'outsider, c'est Christophe Baratier qui porte tout sur ses épaules, même si Sabrina Ouazani et Arthur Dupont jouent dans le film. Vous avez un peu le trac, la trouille quand même quand le film va sortir? Plus que d'habitude.
Un peu
plus,
oui,
que d'habitude.
Un peu plus que d'habitude, peut-être. Ouais. Ouais. Là, j'ai fait des avant-premières en province là et ça s'est assez bien passé de rencontrer le public. De manière comme ça, très informelle, mais les yeux dans les yeux, enfin, où les gens. Et puis en fait, c'est très spontané, les gens parlent, ils disent des trucs, et. Ah, mais moi j'ai pensé ci, moi j'ai pensé ça, tout ça, et ça a un peu vaincu mes peurs, enfin, en tout cas, mon trac peut-être de montrer le film, le fait de rentrer après dans la salle et de discuter avec les gens, et en fait, ils ont un retour plutôt positif, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Donc ça va, j'ai peut-être un peu moins le trac maintenant aussi.
On reparlera tout à l'heure pendant le débat, puisqu'on a notre débat, c'est qu'est-ce que c'est qu'être un jeune comédien aujourd'hui. Alors Arthur Dupont, moi j'ai quand même noté, entre autres, hein, Chacun sa nuit, parce que c'était quand même le film qui nous a fait connaître. On parle d'un Romer, c'est un des derniers Romer, Les Amours d'Astrée et de Céladon.
Céladon, oui.
Nos 18 ans, que j'avais vu, Buzz Palladium, dans lequel vous chantiez ou pas?
Oui.
Parce que vous êtes acteur, mais ce que les gens savent moins, ceux qui vous connaissent, c'est que vous êtes chanteur aussi, bon, musicien.
En fait, je suis musicien aussi. Moi, j'ai commencé à faire de la musique au même moment où j'ai commencé à jouer la comédie.
Ouais.
Donc assez jeune, et puis ça m'accompagne encore maintenant et longtemps.
Et Buzz Palladium, c'est un film dont on avait beaucoup parlé. Dans ton sommeil, un film d'horreur, un film d'angoisse. Ouais. Hein. Les Saveurs du Palais, dont on parlait tout à l'heure,
avec Catherine Froh.
Et Au bout du compte, voilà, c'est ceux que j'ai cités entre autres, hein, mais il y en a d'autres. Et cette fois, c'est un film très attendu avec Christophe Baratier, qu'on connaissait pour Les Choristes, pour Faubourg 36, et qu'on connaissait pas dans ce domaine du polar, et c'est un polar financier juridique, c'est l'affaire Jérôme Kerviel, qui s'appelle L'Outsider. Ça pourrait être n'importe quelle affaire d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant dans le film, parce que le film est assez universel. C'est la première fois, moi je crois, que je vois un film français qui aborde un peu tous ces domaines des traders, des types devant l'ordinateur qui peuvent en un petit clic gagner des millions de dollars, et pour Jérôme Kerviel qui joue avec ça... gagner plus, puisque on parle de milliards de dollars. À un moment, il est pas de tout le monde. Et alors moi, je vous dis ce que j'ai trouvé, parce que pour les auditeurs, c'est que le film est très intéressant, passionnant. Il n'exonère pas Jérôme Kerviel des fautes qu'il a pu connaître dans cette folie du jeu. Pas la banque non plus, parce que maintenant on le sait, il y a eu différents procès, que la banque savait au moins une partie des choses. Ce qui est intéressant, ce qui apparaît dans le film, et je pense que voilà, vous connaissez bien le personnage, c'est que contrairement à d'autres, en ce moment, on voit un film avec Bec BD, montre des types là qui travaillent dans le milieu du mannequinat, où on a vu le loup de Wall Street ou tout type de drogue. C'est que ce qui frappe dans le personnage de Jérôme Kerviel, c'est que c'est un mec assez sain, quoi. Il se drogue pas, il fume pas, il boit pas. Il a une petite fiancée encore quand il a le temps. Enfin, mais oui,
il boit pas, il fume pas. C'est-à-dire qu'il par rapport à ce qu'on attend des traders,
et par rapport à certains de ses
dans
copains,
l'esprit un peu de tout le monde, voilà. c'est la débauche absolue.
Oui, oui. Mais on voit qu'il est un peu en retrait.
Des fontaines de champagne, et lui, c'est pas du tout. Lui, il prenait juste des bains et des douches tranquilles, voilà. sans champagne. Il était. Non, mais en fait, c'est ça, c'est ce qui a même étonné à l'éclatement de l'affaire Daniel Bouton, le PDG de la Société Générale, qui disait mais ce qui est très étrange avec ce trader, c'est que. Il n'a pas détourné un centime pour lui.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que le but, et c'est moi, c'est comme ça que j'ai eu à le jouer, parce que c'était le scénario, et c'est ce qui ressortait du peu d'entretien que j'ai pu avoir avec Jérôme Kerviel, c'est que c'était un challenge personnel, en fait.
Oui, c'est ça, c'est un jeu. C'est comme s'il jouait dans un.
Alors, vous dites ça
un jeu.
Si vous dites ça à un trader, bon, il va quitter la salle en claquant la porte, vous ne saurez pas pourquoi, mais moi je vous le dis. C'est
oui,
parce que dans le jeu, il y a du hasard.
Oui, c'est ça.
Ouais, mais
jeu, moi c'était jubilation.
Oui, là, mais parce que la grosse nuance, c'est ça, c'est que dans le jeu, il y a du hasard et que tout trader vous dira que le hasard, en équivalent au risque, on va dire, est mesuré parce qu'on va compenser les risques avec justement des achats, des ventes.
Ouais, c'est ce qu'il fait.
Équivalente pour pouvoir absorber le risque. Donc y a, à proprement parler, c'est pas un jeu, c'est un savoir-faire, mais lui, il s'est un petit peu perdu là-dedans.
Oui, il s'est perdu. Ouais. C'est-à-dire qu'on l'a laissé faire, on l'a pas autorisé, on l'a laissé faire, et il s'est pris entre guillemets au jeu. S'est laissé aller, et il s'est dit, mais puisqu'on peut jouer avec l'argent, je vais investir.
C'est-à-dire qu'il on lui met à disposition des outils qui permettent de spéculer un peu de manière agressive sur le marché.
C'est ça.
C'est illégal, hein.
C'est illégal.
Mais c'est tacite.
C'est tacite, voilà.
Moi, je prends comme. Parce que
c'est illégal, il fait gagner de l'argent à la banque.
Ouais. C'est-à-dire que c'est un des moyens, c'est des petits boosters, quoi. Tant que ça marche, c'est bien. Dans des proportions, voilà, relatives. Et puis, quand ça gagne beaucoup. Les gens commencent à se dire, il prend beaucoup de risques, mais ça gagne. Donc, encore là, le fait que ça gagne, on ne l'arrête pas, etc. Et puis surtout, après, il s'enferre. C'est-à-dire qu'il tombe, il y a une chute et qui est assez personnelle. Et c'est pour ça que le film, c'est ce que vous disiez au début, il n'exonère pas Jérôme Kerviel parce que, on le sait, il a fait défaut. Il a fait des faux mails avec l'entête de la Deutsche Bank pour corroborer ses mensonges. Et après, il s'est avéré que non, il n'a jamais traité face à la Deutsche Bank. Donc après, il a vraiment une responsabilité. Ouais. Il s'est enferré dans son mensonge.
Comment il vous a choisi, Baratier ?
Par casting.
Casting ?
Ah ouais.
Vous étiez nombreux sur le coup ? Grégoire était sur le coup ?
J'étais pas sur le coup. Non, je n'ai pas passé le casting.
Moi, je ne sais pas qui l'a passé, mais en tout cas, je sais que c'est toi, je ne sais pas, Grégoire, tu sais, genre les castings où genre tu passes 3 heures d'essai, où il y a 10 séquences à apprendre.
Ouais, c'est des longs castings.
Moi, j'avais jamais vécu ça. C'est le premier casting jusque-là où je me suis dit, c'est vraiment des essais. Pourquoi je dis ça ? Parce que essayer, c'est pas genre essayer en une demi-heure. Non, essayer, c'est aller même jusqu'à l'échec, de dire, t'as vu, on a tellement essayé que ça marche pas.
Ouais.
Et les deux protagonistes, c'est-à-dire l'acteur et le metteur en scène, se rendent à l'évidence et disent, on se regarde et puis on sait, en fait, à la fin de l'essai. On a compris, on sait si ça s'est bien passé, si on se comprend, si on parle un peu le même langage, si la personne arrive à vous cerner en tant qu'acteur et à savoir quel bouton en vous il va pouvoir actionner pour animer le personnage.
C'était le réel
ensemble,
face à vous.
Ouais, et lui, Christophe Baratier, il était au taquet sur tout, vraiment, sur toutes les séquences, sur tous les enjeux des séquences, sur les nuances des séquences, vraiment sur le jeu. Moi, j'étais assez fasciné. Enfin, j'étais très heureux, en fait, parce que j'ai passé, je vous dis, 3 heures d'essai, 10 séquences. Alors, ce qui était bien, c'est c'est des essais de luxe, parce qu'on a la directrice de casting qui filme. On a le metteur en scène qui est là, et on a des acteurs qui donnent la réplique.
Et ah pas oui, qu'un, c'est ça. Ouais. Les deux.
Oui.
Les deux acteurs qui me donnaient la réplique. Et des bons acteurs. Donc du coup, on est là, on n'a pas d'excuses.
Ouais.
Il faut bien connaître son texte. Il y a 10 séquences. Il faut vraiment être concentré. Mais c'était passionnant. Et Sabrina Ouazzani qui vient d'arriver dans le studio pourra peut-être nous raconter son casting aussi avec Christophe Baratier.
Absolument.
Bonjour
Sabrina.
Désolée. Non mais tout va bien.
Je me suis présentée.
On a parlé de vous, on a dit du mal, mais
c'est
bon.
Vrai. Mais
non, c'est en direct, tu peux passer, mort. Ce qui passe, c'est fini.
Si, regarde www.séancesradio.com, j'irai voir.
On était en train de parler du casting et vous savez s'il vous a choisi tout de suite, il a hésité avec d'autres, des noms, non.
Je crois qu'il y avait Jean Reno.
Il y avait Dujardin.
Jean-Hugues Anglade. Et
Lindon, évidemment.
Lindon, on était vraiment. Vraiment.
Ouais. De Niro aussi, non
De Niro, il arrive en retard, donc Christophe a dit dégage. Il a même pas passé les essais.
Même pas d'essais.
Après, non, parce que Christophe, il est quand même droit dans ses pompes, donc faut pas le faire. Non, mais j'ai passé les essais et puis j'ai eu des nouvelles. Peut-être deux semaines après ou une semaine après, c'était assez rapide en fait. Et voilà. Mais je crois que, en discutant avec lui, apparemment, il avait une bonne intuition assez vite. Ouais. Il s'est dit, ça colle quand même.
Et après le boulot, il vous êtes dit, j'interprète quelqu'un qui est vivant, qui est là.
Non, je ne me suis pas dit en mode
responsabilité.
Il y a plusieurs choses. Moi, j'ai flippé. J'ai eu très peur. Avant même d'aller passer les essais, j'ai même hésité à aller passer les essais parce que le scénario et les séquences pour les essais étaient c'était imbitable quoi. Parce que les termes techniques, en tout cas de cette version-là du scénario, moi je me disais oh là là, je comprends rien. Alors déjà jouer la comédie, c'est pas évident parce qu'il faut se mettre dans un état, il faut se mettre dans la syntaxe de quelqu'un d'autre, etc. Mais alors là, en plus, avec des termes techniques, c'était très angoissant. Et puis, en plus de ça, il y avait effectivement la responsabilité de jouer quelqu'un de contemporain, qui a des mêlées avec la justice, que les journalistes, les médias, les spectateurs voudront voir et m'attendront à l'angle. Merci au tournant. Et donc, j'ai hésité, j'ai vraiment décidé. Je me suis dit, non, allez. J'y vais parce que c'est un vrai challenge et le scénario était très beau. Outre que c'est une histoire réelle et que les gens vont se dire ah c'est l'affaire Kerviel qui a fait couler beaucoup d'encre dans la presse. Moi je me suis dit que c'est un personnage en fait. C'est comme une tragédie. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une ascension fulgurante et c'est inéluctable. De toute façon on le sait d'emblée vu le personnage public. Enfin voilà qu'on connaît déjà. C'est une chute inéluctable et qui est d'une violence et qui est très sourde en même temps puisqu'il est seul dans cette douleur là. C'est pas dans le sang et dans les larmes, c'est dans l'effroi et dans le glacial quoi.
Il a été très fidèle aux faits. Par exemple, on voit un type qui se suicide au début du film. D'ailleurs, une petite ambiguïté. Je ne sais pas si c'est voulu, mais on se demande si c'est pas vous. Alors, on ne comprend pas. Il se jette dans
le. Mais ne dites pas tout.
Mais laissez. Vous vous rendez compte que Christophe Baratier a passé des années à écrire un scénario en se disant comment je peux commencer pour arnaquer le spectateur. Comment je peux faire
vivant scénaristiquement.
Mais enfin, mais peut-être qu'on va se dire mais non, en fait, c'est pas sur Jérôme Kerviel, c'est sur un autre.
Sabrina Ouazzani qui nous a rejoint dans ce studio. Oui. Bonjour. Alors
bonjour.
Évidemment, je rate tout parce que je voulais vous présenter tout ça. Enfin comme.
Mais elle est arrivée hors.
Elle est arrivée.
Voilà. Bah, oui.
L'esquive. Vous aviez 17 ans.
13 ans.
Ouais. Imaginez. qu'est-ce que j'ai gardé moi? Qu'est-ce que j'ai gardé de votre carrière?
Bah dites-moi alors. Qu'est-ce que vous avez
l'esquive,
gardé de ma carrière?
La Graine de Mulet, des hommes et des dieux. C'est elle qui est assise entre autres sur le banc avec cette scène magnifique dans ce chef-d'œuvre qui est ce film quand même avec Michael Zonzal qui lui parle et qui lui explique ce que c'est que l'amour, c'est trop beau, tout ce qui brille, la source des femmes, Inch'Allah, le passé d'Asghar Farhadi, qu'Allah bénisse la France, et puis maintenant Outsider, c'est pas mal, je sais que vous en avez fait d'autres, mais bon,
c'est bien, c'est un joli résumé.
Oui. Alors, je vous dis maintenant devant vous ce que j'ai dit aux autres, c'est que vous, y compris, vous avez commencé très jeune, tous les trois, le hasard fait que vous, ambassadeur de la fête du cinéma, des jeunes trentenaires, vous avez une carrière déjà incroyable devant vous. Vous étiez à la Cité des 4000 ou pas loin, à la Courneuve.
Totalement, non, je viens de la Cité des 4000.
Alors, ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai fait un reportage quand je commençais en journaliste à la Cité des 4000 parce qu'il y avait un vieux monsieur qui avait tué un gamin qui faisait trop de bruit.
C'est pas.
À la Cité des 4000.
C'est pas drôle, mais. Ouais, c'est bonne ambiance.
C'est bonne ambiance.
Mais je viens de la Cité des 4000 de Balzac.
La Cité des 4000. Et alors, à propos de journaliste, vous vouliez être journaliste.
Exactement.
Mais vous auriez, mais je vous ai repris comme stagiaire, moi.
C'est vrai, mais pourquoi comme stagiaire et pas comme employé?
On a une différence d'âge, donc vous seriez arrivé, vous auriez été une jeune stagiaire. Moi, j'avais déjà 20 ans de métier.
Mais c'est vrai que ouais, je voulais être journaliste, donc j'ai fait un bac économique et social et une licence d'histoire. Et après ça, je devais suivre avec une école de journalisme.
Super.
Je me suis dit, bon, allez, je vais rester dans le cinéma, dans la comédie.
Vous
ne
regrettez pas. Vous jouerez une journaliste, vous n'avez jamais joué de journaliste encore.
Non, c'est vrai, vrai. Ouais. Bah, j'attends qu'on propose.
Alors, pareil, le casting, parce que lui nous a raconté un casting incroyable, le casting avec Baratier pour l'Outsider.
Et bah, le casting avec Christophe, moi, Christophe, on s'était croisés déjà quelques fois parce que lui sortait Les Choristes et moi un film quand j'avais même pas 15 ans qui s'appelait Trois petites filles, donc on se croisait en promo déjà à ce moment-là. Donc quand on m'a proposé de passer le casting, bah, tout de suite, je connaissais son cinéma, j'ai foncé. Donc effectivement, il y avait deux, trois scènes pas faciles, dont la scène de rencontre avec Jérôme, vous verrez dans le film. Et ensuite, il devait y avoir des callbacks. Et moi, je sais que ce qui bloquait un petit peu au tout départ, ce qui lui mettait un petit peu le doute, c'était qu'effectivement, comme vous veniez de le dire, je viens de la Cité des 4000 à la Courneuve et du coup, on entend un petit peu mon accent de banlieue, alors que Sophia, l'amoureuse de Jérôme Kerviel, n'a pas ce petit accent. Donc, il m'a dit, OK, bon, alors, il m'a appelé, on a parlé longuement, il m'a dit, tu vas retravailler un petit peu ta diction et on va refaire un callback parce que je crois en toi, je me projette avec toi dans le film et dans ce rôle. Puis je suis tombée malade, donc j'ai pas pu venir au callback. Et puis finalement, il m'a appelé en me disant, bon, allez, c'est pas grave, on travaillera sur le plateau, c'est toi. Donc moi, j'étais trop contente. Mais du coup, j'avais encore plus l'impression de me dire, bon, j'espère que je vais pas le décevoir et que je vais réussir à faire ce travail-là, ouais.
Et comment vous l'avez vécu, ce tournage?
Ah bah c'était génial. Moi j'ai appris énormément de choses au contact de Christophe. J'ai découvert Arthur, enfin je le connaissais, je l'avais vu dans plusieurs films, mais là de jouer avec lui c'était vraiment quelqu'un de d'incroyablement talentueux, mais de très très généreux aussi. Donc ça a été super. François-Xavier aussi. Et ouais, ça a été un travail.
On n'a pas cité François-Xavier de Maison qui joue le patron, le mentor de Jérôme Kerviel.
Ouais, exactement. Donc non, ça a été super. Il y avait une ambiance de dingue parce que en plus d'être un excellent acteur, c'est un très très bon chanteur. Donc,
il vous a fait
le
bœuf sur le plateau.
Non, bah, c'est ça.
Sur le plateau, il y avait Mehmet Areski, qui est un grand, c'est un super acteur, un chanteur aussi, il a le groove dans le sang. Il y a Stéphane Bach, qui n'est pas le dernier à pousser la chansonnette. Il y a François-Xavier de Maison, Soren Prévost, qui est un grand improvisateur et un grand chanteur aussi, et Sabrina. Et on était tous une bande de je sais pas, une bande d'acteurs, c'est sûr, mais moi j'étais comme dans une colonie de vacances à des moments. Pourquoi ? Parce qu'il y avait tellement d'intensité et de pression sur le plateau, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps et c'était que des séquences où il y avait beaucoup de figuration. Il y avait une trentaine, une quarantaine de figurants autour des scènes, à proprement parler, avec les acteurs, qui eux-mêmes étaient, on était au nombre de 9, ou 8, ouais, genre 8 ou 9. Et donc du coup, il y avait une grande énergie à devoir déployer et en même temps une grande concentration. Et c'était fatigant. Et donc entre les séquences, entre les scènes, dès qu'on changeait d'axe, tout ça, dès qu'il y avait un petit mouvement technique, moi je prenais ma guitare tous les matins. Et alors c'est parti, on jouait dans les couloirs et ça nous donnait beaucoup d'oxygène. Et puis même en parlant avec tous les membres de l'équipe, je crois que ça en a donné aussi un petit peu aux autres qui au début se sont dit, ils vont faire ça tous les jours. Ils vont vraiment faire ça tous les jours.
Ouais.
Et puis en fait, ils font ça tous les jours. Ouais, mais c'est sympa. Et puis ça, c'est, voilà, et ça a duré pendant 40 jours.
Ben ouais, c'est ça.
Alors à propos
je te renvoie tout ce que t'as dit sur moi, te concernant.
Oh bah.
Parce que non mais vraiment, parce que là t'es là, donc je te le dis à toi. Mais vraiment tous les acteurs, on se voit encore aujourd'hui. On a du plaisir à encore échanger, à se retrouver. Mmh. Et on est. Et c'était dans la pression parce que on n'avait pas le choix, parce que c'était comme ça vu l'intensité des séquences et le sujet, mais grâce à cette pression aussi on était tous très soudés
Et moi, j'ai passé un moment pendant 40 jours très fort. Et je me rappelle de chaque instant, vraiment.
On parlait de musique, on se fait une petite pause musicale. C'est un extrait de la bande originale du film Dans les forêts de Sibérie, de Safi Nebou, et c'était une musique d'Ibrahim Malouf. On se retrouve dans un instant pour parler de l'événement du mois.
Les événements cinéma sont dans la grande séance.
Alors, l'événement cinéma, c'est évidemment la fête du cinéma, puisque Sabrina Ouazani, Grégoire Le Prince Ringard, Arthur Dupont sont des jeunes et beaux ambassadeurs de cette fête du cinéma. Alors, je vous rappelle le principe, il est super simple. Vous allez du 26 juin jusqu'au 29 juin dans toutes les salles de France, il y a 5600 écrans à peu près, et vous ne payez que 4 euros par séance. Voilà, on a simplifié le processus. Avant, il fallait je sais pas quoi, des tickets, etc. Vous payez 4 euros par séance, donc c'est une bonne occasion d'aller au cinéma. Vous pouvez faire un super programme, surtout que comme ça commence le 29, seront dans les salles La Forêt de Quinconce de Grégoire Le Prince Ringuet et évidemment L'Outsider de Baratier avec Sabrina et Arthur. Alors c'est l'occasion donc de découvrir d'autres films, hein. Il y a Avant toi, il y a Le Monde de Dory, il y aura Camping 3 aussi. Et puis ce qu'il faut préciser, c'est que BNP Paribas est le partenaire de la fête du cinéma déjà depuis 12 ans, et qui prolonge l'opération du 30 juin au 6 juillet en offrant plus de 330 000 contre-marques à ses clients. Les détenteurs de contre-marques BNP peuvent donc bénéficier pendant 7 jours supplémentaires d'un tarif unique de 4 euros la séance. Et, mon cher Nicolas, il y a un jeu en ce moment, bonsoir, sur Séance Radio.
Oui, alors pour bénéficier donc des fameuses contre-marques pour prolonger la fête du cinéma avec BNP Paribas, vous pouvez vous connecter sur Twitter Séance Radio et vous participer au jeu en utilisant le hashtag Séance à la demande et en donnant votre bande originale préférée.
Parfait, dans un instant, on se retrouve avec nos trois invités.
La grande séance, le débat.
Alors, on cherchait un débat, vous savez, depuis 2 ans, on en a eu des débats, le fait divers au cinéma, est-ce qu'il y a trop de films qui sortent dans les salles. Là, on a fait simple, qu'est-ce qu'être un jeune comédien aujourd'hui ?
Oh là là. C'est même pas un débat.
C'est vrai que c'est la première fois qu'on a des jeunes comédiens talentueux. Ça me fait super plaisir, c'est très joyeux. Et je me disais, la question que je me posais, moi j'ai failli être comédien il y a une quarantaine d'années. J'ai présenté le conservatoire, et puis j'ai abandonné parce que au bout de 3-4 ans, je ne trouvais pas trop de boulot. Et je me suis dit, j'ai fait le contraire que vous. Voilà, j'ai fait journaliste, ça m'a servi d'ailleurs. J'ai travaillé ma voix, moi, pour le conservatoire, etc. Donc ça m'a servi quand même en radio. C'est pour ça que j'ai fait de la radio surtout. Mais je me disais que je ne vais vraiment pas parler de chance, parce que je me souviens combien j'ai galéré. Mais en tout cas, vous, encore une fois, quand Sabrina n'était pas là, je disais, mais j'avais l'impression que vous aviez tous 35, 36 ans, et pas du tout, vous n'avez même pas 30 ans, vous avez 28 et 31. Voilà, c'est quand même super jeune. Et vous avez fait, je ne vais pas faire des petits calculs, mais je calculais, parfois entre les films et les films télé, tout ça, des fois, pour certains de vous, il y a une quarantaine de films et téléfilms, ça va. Pour pratiquement chacun, et vous avez super bossé. Alors, est-ce que vous avez l'impression, alors je vais commencer par vous, d'avoir ramé ou pas ?
Bah, en tout cas, c'est sûr que oui, ça demande quand même pas mal
d'énergie.
De rigueur, d'énergie, de... Ouais, totalement. Moi, je sais que je sais aussi, ça passe par, bien évidemment, pas tout accepter, pas se perdre, affirmer ses envies et surtout, oui, ce qu'on n'a pas envie de faire. Mais ouais, c'est vachement, j'ai quand même pas mal ramé. J'ai eu de la chance de commencer avec le film d'Abdelatif Kechiche,
donc alors, ça m'a quand même donné... Parce que l'esquive, c'est bien, il prend une petite jeune de banlieue qui a 13 ans, c'est parfait, mais après, ça aurait pu s'arrêter.
Et après, ça aurait pu s'arrêter.
C'est votre détermination qui a fait que vous avez voulu continuer ? Kechiche après...
Non, je pense que oui, j'ai su dès le moment où j'ai commencé à jouer cette liberté, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, j'ai su que c'est ce que je voulais faire et que j'allais me battre pour... Et que j'allais me donner les moyens pour y arriver. Après, effectivement, c'est apprendre son texte pour les castings alors qu'on a 15 ans et que les autres ils vont à la piscine ou qu'ils vont faire des conneries. C'est travailler en même temps ses cours à côté. C'est être à l'heure. C'est après essayer de donner le mieux qu'on peut. Et il y a quand même, bien sûr, du travail, mais un petit peu de chance aussi, j'avoue. Moi pour moi.
Vous, Grégoire, vous avez l'impression d'être tombé dedans quand vous étiez petit, parce que c'est vrai, vous étiez sur la scène de l'opéra avec Chéreau. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. Vous avez choisi ?
Alors non,
pas vraiment.
En fait, moi j'étais dans un chœur d'enfants. Donc moi j'avais étudié la musique beaucoup au tout départ, et il se trouve que, alors ça c'est le hasard, mais ce chœur d'enfant était le chœur de l'Opéra de Paris. Et donc du coup, quand j'étais tout petit, avant Mamu, j'ai participé à de nombreuses programmations à l'Opéra.
Vous chantiez donc ?
Je chantais, ouais, j'étais alto, je chantais des trucs comme Carmen avec la Garde Montante, tout ça, on chantait ça. Et donc l'éducation musicale au départ, c'est vrai, donne une grande rigueur et une grande confiance à la scène, parce que bon, faut connaître la musique, faut chanter juste et tout ça. Donc en fait, ce savoir-faire là de la musique offre une grande confiance sur scène. Enfin, comme on sait qu'il y a la musique qui est là, qu'il faut chanter, qu'il faut avoir une présence, ça donne une rigueur qui donne aussi de la confiance. Donc du coup, après, c'était assez naturel de jouer pour moi après avoir chanté.
Et après, ça a été de casting en casting, de travailler avec, par exemple, Téchiné, Les Égarés. Vous aviez un agent. Est-ce que vous avez eu l'impression de, je posais la question à Sabrina, de ramer et que ce métier est un peu difficile, en tout cas en tant que comédien ?
Bah, c'est un métier qui est fait de périodes. C'est vrai. Au début, moi, j'ai eu la chance de travailler pas mal. J'avais pas d'agent au départ, non. J'avais été courir les castings tout seul. Enfin, j'étais dans une école de théâtre. Juste ici d'ailleurs à Sèvres.
Ah oui, ouais. C'est drôle.
Et une super école qui s'appelait Les Enfants de la Comédie, où il y avait plein de gens. Et il y avait des adresses de casting comme ça à la fin du cours de théâtre, les gens se les donnaient. Ah bah tu vas celui-là, ouais moi aussi. Donc moi j'ai suivi les copains, j'y suis allé, j'ai fini par faire le film de Téchiné. Et puis après j'en ai fait un peu moins, fait que je finisse mes études. Et puis voilà, il y a des périodes, parfois c'est vrai, on voudrait travailler plus, on le fait moins, on en profite pour écrire des films. On les fait. ça dépend, oui c'est vrai. Vraiment, il faut montrer de la persévérance, je crois, ouais.
Est-ce que le fait de vouloir, on en parlait avant que Sabrina soit arrivée, de maintenant de débuter dans la réalisation, c'est aussi pour ne pas être dépendant ?
Ben, c'est une grande question que vous évoquez là. Forcément, c'est très plaisant de... Enfin, moi, je trouve qu'il y a toujours un grand plaisir en tant qu'acteur à venir dans l'univers de quelqu'un et de s'y fondre et essayer d'être au maximum de ce qu'on peut donner et d'essayer d'être au maximum dans son histoire comme si on était le complice un peu du réalisateur. C'est-à-dire, viens avec moi, on va faire une blague. On va faire une blague tous les deux. Donc, on va la faire comme ça, on va préparer le public, on va lui dire ça au début, et puis là, on va lui dire ça, etc. Donc, voilà. Il y a une excitation comme ça quand on s'entend bien avec un metteur en scène à être partenaire de la même supercherie, quoi, de la même illusion. Et c'est vrai que quand on est acteur et qu'on décide de faire un film, on essaie de retrouver ça avec les acteurs qu'on prend dans le film, quoi. C'est-à-dire de faire en sorte que tout le monde soit dans le même plaisir de l'illusion, quoi, de tromper les gens, enfin, de leur raconter une histoire.
Ça vous plairait, vous? Oui, Sabrina.
Mais c'est vrai que moi, ce qu'il y a quand même, il y a une part de frustration dans le sens où effectivement, moi, je suis pas capable de, enfin, je suis pas encore capable d'écrire, d'écrire peut-être plus tard et de réaliser, mais du coup, je dépends du désir de des autres, de l'autre en fin de compte. Donc c'est vrai que oui, il y a un moment où j'ai quand même, il y a des propositions qui me plaisent moins, des castings que je rate aussi, bien évidemment. Donc il y a des périodes plus creuses et il y a des moments où on se dit bah merde, j'en ai marre d'attendre après l'autre. Donc oui, je vais m'écrire quelque chose où au-delà du fait qu'on a envie de raconter quelque chose qui vient de notre trip ou pas, de raconter quelque chose de qu'on a envie tout simplement, il y a le fait de jouer ce qu'on a envie, donc de s'écrire son propre rôle. Au bout d'un moment, je pense que oui, ça passe aussi par là. Parfois, ouais.
Est-ce que parfois vous avez été choisi sans casting parce que quelqu'un vous voulait?
Bah ouais, moi. Bah,
la graine et le mulet, par exemple, non?
La graine et le mulet, ouais. Asghar Farhadi, j'ai pas passé de casting.
Ah bon?
Ouais.
Vous avez été le voir?
Ouais.
C'est vrai?
J'ai été le voir.
Ouais, t'as bien fait.
J'ai été le voir, mais d'abord, il voulait une fille qui n'était pas forcément comédienne en casting sauvage. Ouais. Et donc, il a entendu un petit peu mon nom, passé par-ci, passé par-là. Donc on a juste fait une rencontre
Aviez envie, vous aviez vu la séparation.
Bah oui, ouais. Bien sûr. Ah, mais moi je rêvais de travailler avec Asghar, donc bien sûr que oui, ça venait de mon envie aussi et de moi qui disais mais si vous lui souffliez un petit peu mon prénom par-ci par-là. Donc là du coup j'ai pas passé de casting, il m'a vu et il m'a dit bon bah allez c'est toi.
Ah ça c'est
toi. Et s'il m'avait vu dans Inch'Allah, un autre film que j'avais fait, Beauvois aussi, Xavier Beauvois, ouais. J'ai pas passé de casting.
Ah, pas passé de casting avec Beauvois pour Des Hommes et des Dieux.
Ouais, ouais.
Vous avez repéré.
Ouais, il m'avait vu dans L'Esquive et dans d'autres films et du coup ouais, c'était une proposition ferme comme on dit dans le métier.
C'est génial ça. Et vous, ça vous est arrivé aussi?
Oui,
Honoré par exemple, ouais. les chansons d'amour, vous avez passé un casting, ouais, j'imagine. Ça, ouais. Il fallait chanter, vous chantiez, ouais. Ça c'était déjà génial, c'était un super avantage. Ouais. Et la belle personne, ça oui, vous connaissez.
Ouais, mais non, c'était plus compliqué. La belle personne, moi j'avais vachement envie de faire le film, mais il voulait des acteurs non professionnels. Ah. Et il me dit, toi tu commences à devenir un peu professionnel, Grégoire,
c'est
dommage, hein, mais t'aurais un peu moins d'expérience. Alors je lui dis, non, tu vas absolument pas me dire ça. Et là, j'ai dû, pour la belle personne, j'ai dû argumenter mon affaire. Ouais. Je lui ai envoyé des mails.
Professionnalisé.
Ouais, c'est ça. Je lui ai dit, regarde, je peux faire semblant d'eux, etc. Je me suis rasé de près.
Ouais.
Non, c'était pas ça, mais il y avait. Enfin voilà, il voulait quand même plus une équipe d'acteurs non professionnels en face de Louis Garrel en fait pour faire un peu le pendant comme ça. Et je lui ai expliqué qu'il fallait absolument que je fasse le rôle, que c'était déterminant pour moi, qu'il fallait que je le fasse. J'avais lu le scénario, j'avais piqué le scénario d'ailleurs à l'époque sans qu'il me le donne. Et je l'ai tellement saoulé que je crois qu'il a fini par dire oui. Ouais.
Mais et puis il y a des gens comme Guédiguian, vous avez fait 3 films, je pense qu'il y a un côté troupe avec Guédiguian.
Bah,
là il vous a adopté.
Ouais, voilà.
On est d'accord hein.
Ouais, Guédiguian venant depuis quelques films maintenant effectivement, il m'appelle.
Neige du Kilimandjaro, on le rappelle.
Neige du Kilimandjaro, l'armée du crime, c'était le premier.
Voilà. L'armée du Kilimandjaro, une histoire de fou.
Ouais. Et maintenant, effectivement, il m'appelle comme ça directement. Il me dit je t'écris un rôle, viens
faire un août.
Je fais quoi un août hein? Viens me boire un pastis.
Et alors, vous, Arthur, vous avez commencé un peu par la musique, par le théâtre. Vous avez commencé très tôt aussi, on l'a vu. Et est-ce que vous avez l'impression que c'est un métier difficile?
Bah, c'est. En fait, il y a deux choses. C'est ce métier-là, enfin, quand vous me posez la question, je vois il y a la persévérance, il y a l'énergie qu'il faut y mettre pour effectivement aller au défi de chaque casting, se fondre dans les essais et y croire à chaque fois. Et puis il y a pas mal d'échecs aussi, donc il faut pas lâcher, il faut continuer à y croire. Ça c'est une première chose. Et puis après il y a quand on joue la comédie. Et c'est encore une autre partie. C'est-à-dire que il y a...
Voiture de soi. Vous avez des doutes des fois?
Ah bah il faut. Non, mais c'est-à-dire qu'il faut... Moi j'ai l'impression que si on est trop... trop sûr de soi, on ne s'offre aucune surprise.
Ouais.
Et du coup, on n'offre rien de vivant à la caméra. Ouais. Puisqu'on est sûr de ce qui va se passer dans 2-3 secondes. Alors que dans la vie, on ne sait pas ce qui va se passer dans 2-3 secondes. Et c'est ça qui nous rend vivants et c'est ça qui nous rend sensibles. Et si, et si à chaque fois qu'on joue, on essaie d'être à chaque fois dans ce doute constant, mais pas le doute qui nous paralyse, mais ce doute constant de je ne sais pas trop ce qui va se passer dans le geste d'après. Je sais que le contexte général de la séquence et les rendez-vous dans la séquence, le canevas général, est de telle ou telle manière. Mais moi, à l'intérieur de ça, il faut que je reste vivant. Il faut que je puisse parler comme si ce n'était pas une réplique écrite. Il faut que je puisse faire ce déplacement comme si ce n'était pas prévu. Et il est là le doute qu'il faut conserver en tant qu'acteur, moi je trouve.
Jouvet, c'est pas loin de ça. Jouvet, on la connaît la phrase, une jeune fille qui disait « Maître, j'ai pas le trac », et il répondait « Ça viendra avec le talent ».
C'est dur ça.
Vous étiez d'accord, je voyais Sabrina avec ce que disait Arthur.
Ben ouais, j'étais totalement d'accord sur le fait que moi, en tout cas, j'ai il n'y a rien de pire en fait que de se reposer sur ses acquis. Et d'ailleurs avec Christophe, moi c'était un peu le travail qu'on a fait, c'est-à-dire détruire totalement ce que naturellement je pouvais proposer d'instinct, enfin en proposition en tant d'actrice, quoi, de jeu, pour tout reconstruire et construire réellement, composer un personnage ensemble. Donc effectivement, pas se rester bloqué sur ce qu'on s'est mis en tête à l'avance et rester toujours spontané. Moi j'apprends jamais mon texte à l'avance, je l'apprends le matin au maquillage pour pas être comme un robot, me formater, faire toujours la même chose. Sinon c'est préfabriquer une émotion, puis on n'est plus à l'écoute de l'autre en fin de compte, de l'acteur qui est en face de nous, quoi. C'est vraiment rester toujours en connexion et ouais, voilà.
Mais ce qui me frappe moi quand même, c'est que vous avez une quinzaine d'années de carrière, même déjà, même si vous êtes jeune, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas eu de trou dans votre carrière, il n'y a pas eu de traversée du désert, alors que parfois, quand on regarde le parcours de certains comédiens, y compris Lindon ou d'autres, il y a quand même des moments où ça a été difficile. Et vous, il n'y a pas eu de trou.
Parce qu'on est trop jeune encore.
Ouais, c'est ça.
Ça va venir. Mais Bruno, il faut nous réinviter quand on aura 60 ans.
Et là, même pas dans 10 ans.
On fera le bilan simplement. Mais
là, c'est votre énergie qui a fait ça. C'est un peu la chance. C'est les gens que vous connaissez. Parce que vous êtes senti à un moment, tout d'un coup, j'ai plus de travail. Vous avez été à la NPE des comédiens, je sais pas quoi.
Ben, on y a tous été. On y a tous été dans le 15e, enfin.
C'est ça, on
connaît
la queue
comme tout le monde et puis se regarder et se dire ah oui, toi aussi.
Exactement.
C'est normal,
Et merci ce système-là aussi.
Ah bah oui, ça c'est sûr.
Justement pour les périodes de creux.
Il y a des périodes où on se retrouve. En même temps, on assume ça aussi, j'ai l'impression, quand on fait ce métier, quoi. C'est-à-dire, effectivement, il y a des moments où ça va vite, mais même dans la façon même de faire les films, parfois même on refuse des films. Parce qu'on est sur d'autres films dans la même période, ça se bouscule au portillon, et puis après, 6 mois après, il se trouve qu'on n'a pas de travail pendant 3 mois. On se dit, mais attends, c'est trop bête là, il y en avait deux en même temps, t'aurais pas pu les mettre. Donc, c'est vraiment un truc qui va comme avec la vie, quoi. Il faut s'adapter tout le temps, quoi. C'est vrai.
Alors,
c'est pas la sécurité de l'emploi.
Ce qui est drôle, c'est que souvent au César, on voit des gens qui ironisent et qui parlent de la famille du cinéma en ironisant, parce qu'on pense que c'est un peu les attrides. Et quand on vous voit tous les trois, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de rivalité.
Mais il faut arrêter de relayer ces ambiances-là, enfin, Bruno.
Ça n'existe pas.
Parce que, mais, faut arrêter de relayer ça.
C'est-à-dire, ça n'existe pas la rivalité.
Mais en même temps, c'est bien de le dire comme ça, parce que vous dites, en fait, la réalité, c'est ça. La réalité, c'est juste que
plutôt bonne ambiance quand même.
Chacun travaille un petit peu quand même.
Ouais, c'est parce que vous êtes jeune.
Je vous dis qu'on aura 60 ans, on s'en reparle. On refusera d'être à côté. Mais ça, moi vraiment, j'y crois pas. Je me dis juste un truc, c'est que effectivement, quand on est dans le contexte d'un casting, il peut y avoir moi je l'ai pas ressenti ce truc là, mais je peux comprendre qu'il y ait cette espèce de, c'est pas de la jalousie, mais c'est un truc un peu envieux, en se disant ah, merde, putain, il le fasse aussi, merde, et tout ça, ah mais putain, peut-être qu'il correspond plus que moi, machin. Je peux comprendre dans le contexte d'un casting, peut-être, mais dans la vie,
faut y aller, quoi.
Mais il faut pas se la pourrir la vie, parce que là on se pourrirait la vie, hein.
C'est ça, c'est se pourrir la vie que de se regarder quand même les uns les autres et dire ah ouais, lui il a ça et pas moi, non.
Entre femmes, ça se passe bien aussi.
Allez, nous on va boire un café avec
dites-nous tout, Sabrina. Là,
c'est vrai, mais bien sûr qu'il y a, bien sûr qu'il y a un petit peu de concurrence. On va pas se mentir non plus.
Entre mecs moins, je crois, vraiment.
Mais entre mecs moins. Après, je pense que Nous, en plus, enfin moi, je sais que pour moi, c'est forcément, c'est encore plus restreint dans le sens où il y a moins de rôles entre guillemets pour moi, dans le sens où vraiment on me met dans la case jeune fille maghrébine,
petite beurette
maghrébine, ouais bah beurette, voilà, et qui vient de banlieue de surcroît, donc forcément parfois ça limite un petit peu, et donc moi j'essaie de me défaire de ça, donc on se retrouve souvent. On est plusieurs à se retrouver, enfin on se retrouve souvent toujours ouais. les mêmes, toutes les mêmes au même casting, mais franchement non, on est quand même dans une bonne énergie, bien sûr que des fois on sent des petites on s'envie, mais même on va se le dire, ah putain toi t'as fait le film bah justement avec Asghar, et toi t'as tourné avec lui, avec Lapiche, et nanana, mais non quand même ça reste dans une bonne ambiance. Non, c'est pas méchant, on va pas se tirer dans les pattes ou se casser la jambe pour réussir le casting, non.
Mais après il y a quelque chose, moi je trouve, c'est quand on voit des camarades dont on est fan du talent,
ouais.
qui est explosif, qui est là face à vous, on se dit il y a quand même dans ce métier et cette personne-là qui ne travaille pas comme elle devrait travailler vu le talent qu'elle a, on peut se dire il y a effectivement une part de chance et il y a une part de dépendance du désir des autres. Mmh. Et le désir des autres, il est en fonction de ce qu'ils ont écrit, ils ont en fonction c'est en fonction des clichés qu'ils ont dans la tête aussi. Parce que c'est comme ça, c'est leur cliché à eux, c'est totalement légitime de vouloir le mettre sur le film qu'ils veulent faire, mais il y a une espèce d'injustice aussi. Mmh. Et tant qu'on est du bon côté de la barrière, on peut se dire ouais, mais non, mais ça va, ce métier-là, etc. Donc c'est plutôt confortable de dire quand on sort un film, quand on est ambassadeur de la fête du cinéma, quand là on est là face à vous pour parler, il y a tellement d'acteurs qui là ne sont pas là ce soir et ne peuvent pas répondre à cette question-là parce que eux ils galèrent parce qu'ils ont même pas accès à certains castings et qui, c'est-à-dire que c'est toujours un peu délicat de répondre à cette question quand on travaille parce que c'est très confortable d'y répondre.
On se retrouve dans un instant pour le quiz.
Jouez avec la grande séance. Tout de suite, le blind test dans votre émission 100% cinéma.
Alors, vous écoutez bien parce que là, il faut. On a Alexis qui est là, on a Barbara, il faut répondre, il faut faire des efforts, mettez les casques.
Ah merde, c'est vrai, faut mettre.
Mettez les casques. Ça s'appelle La pluie au cinéma. Il y a des extraits et des extraits de du film et de bande originale. On commence au numéro 1, il y en a 10. 1.
C'est le Requiem de Mozart.
The Madeus.
Donc, Amadeus. Qui a dit Amadeus? Ah ouais, bravo. Excellent. Bien joué. Ah, on peut applaudir.
Moi, je suis nul. Je suis resté.
D'habitude, normalement, tu l'as dit, Grégoire. Hein, tu l'as dit. Alexis,
c'est pour l'auditeur. Hein. C'est Grégoire qui vient de gagner le premier point.
Attention, ah, ça, le 2.
Oh, ça m'énerve, je sais plus.
1942, Disney.
Ah, je l'ai pas. Oh,
c'est non, Fantasia,
un
non
grand classique de Disney.
C'est pas
c'était
Fantasia.
C'était Bambi.
Ah, Bambi.
Bambi qui a frappé toutes les jeunes femmes.
Oui.
Ouais, qui a traumatisé.
Je cherchais.
Ah, attention, le numéro 3, c'est plus récent. Ça. Allez, je veux 1982.
Tous.
Ah, Maman.
Qui a dit Blade Runner, Alexis?
Ah, pas mal.
Bien joué.
La classe.
Je t'ai dit de
on a même pas entendu.
Deux secondes et demie.
Ah, c'était court. Le numéro 4.
Un jour, il s'est mis à pleuvoir.
Forrest Gump. Bravo.
Oh, pas mal.
Arthur Dupont. Bravo. Putain,
t'es
deux
bon,
mots.
Toi.
Mais je suis pas bon. A dit, c'est mon premier point.
Ouais, bon, enfin, mais
non, t'as raison, je suis hyper bon.
Ah, ça, c'est un superbe film, mais vous l'avez peut-être pas vu. 5. 1993. Ah, j'aurais vu plus vieux ce film.
Oh, c'est hyper connu ça.
C'est
la pub Citroën, c'est pas ça?
Non. C'est un film de Brian De Palma dans lequel joue Al Pacino. Il observe les ballerines depuis un toit sous la pluie. L'impasse. Absolument.
Oh là, je suis nul, mais je suis vraiment nul, moi.
Génial, attention, là, normalement, il y a quelqu'un qui devrait répondre très rapidement. Le 6.
Il pleut des cordes.
C'est les chansons d'amour.
Les chansons d'amour.
C'est pas juste. Bravo,
mais je laisse copier Sabrina, elle a répondu avant moi.
Attention. Ça parle de pluie, c'est le numéro 7.
Oh mon Dieu, ça va? Vous n'êtes pas mort?
Bienvenue, monsieur le
directeur. Bienvenue, monsieur le directeur.
Ah ouais.
Ça fait deux points.
Numéro.
Ça fait un demi-point.
C'est quoi ça? Numéro 8, un film de 2004. J'ai jamais vu ce film.
Merde.
Pourquoi tu ne m'as pas écrit? Pourquoi? fini pour moi. Je t'ai attendu pendant 7 longues années.
Ça sent le doublage.
Oui, c'est le doublage. Ouais,
c'est vachement bien, c'est fait d'ailleurs.
J'ai dû vous le dire.
365 lettres.
Oh là là.
Ah, c'est avec Amanda Pitt.
Une par
c'est scène dans la barque après une longue séparation entre Ryan Gosling et Rachel McAdams.
Ah, I love you.
Non, c'est pas ça.
Ça s'appelle N'oublie jamais.
N'oublie jamais.
Oui, c'est celui-là que j'ai mis dans la page. Non,
on dit que vous avez gagné, Sabrina.
C'est ça.
Attention.
N'oublie jamais.
Un grand classique, le 9.
Ah bah c'est Les Parapluies de Cherbourg.
Les Parapluies de Cherbourg.
Ouais, bravo.
Bravo, de Jacques Demy, 1963. Et le dernier, qui est un grand classique de la comédie musicale. Attention, c'est le dernier, mais pas le moindre, le 10.
C'est fini,
Alexis. Voilà, bravo.
Moi, je suis nul, hein, définitivement.
On se retrouve dans un instant pour se dire au revoir.
La grande séance, l'émission 100% cinéma de Séance Radio.
Surtout, 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 nous avons trois jeunes et beaux ambassadeurs de la fête du cinéma. N'oubliez pas que du dimanche 26 juin au 29 juin, 4 euros la séance, vous pouvez voir tous les films, L'Outsider, La Forêt de Quinconce et les autres films, Camping 3 et d'autres. Voilà, c'est la fête du cinéma avec 4 euros la séance, donc ça vaut super le coup. D'ailleurs, à chaque fois, ça marche très très bien, cette fête du cinéma. Et on a des ambassadeurs qui l'ont boosté et qui nous ont fait le plaisir et l'honneur de venir ici. Je vous rappelle qu'il restera le 6 juillet, on a calculé, avant l'été, une grande séance. Et comment peut-on nous appeler, nous joindre?
Vous pouvez participer sur Twitter Séance Radio avec le hashtag La Grande Séance ou sur Facebook.
Voilà, merci Sabrina Ouazani, je suis heureux de vous avoir reçu, Grégoire Le Prince, Arthur Dupont.
Merci à la
énergie.
Fête du cinéma.
Ouais, absolument, ouais. Avec une énergie,
une belle initiative,
extraordinaire.
Merci
et moi
beaucoup.
J'étais content. Vous êtes les plus jeunes acteurs que j'ai reçus, mais j'étais super content. Vous avez boosté l'émission, c'était vraiment superbe.
Merci beaucoup.
Bon Bruno et Bébé.
Merci.
Et nous, on se retrouve le mercredi 6 juillet pour une nouvelle émission.
C'était La Grande Séance, l'émission live 100% cinéma. Retrouvez Bruno Kras et toute son équipe sur Séance Radio par BNP Paribas.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.